Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors au menu aujourd'hui, on va débuter comme chaque jour par une question. Aujourd'hui, la voici. Doit-on absolument donner ou trouver un sens à sa vie?
Et oui Julia, nous philosopherons dans Bienfait pour vous avec le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir. Il viendra nous expliquer pourquoi l'homme a autant besoin depuis la nuit des temps et tout particulièrement ces dernières années peut-être de donner du sens à notre vie.
Et puis Mélanie, à 11h35, une fois qu'on aura trouvé un sens à notre vie, on essaiera de la rendre moins morose en ce mois de novembre dans notre dossier santé du jour. On va tenter de repousser ensemble la dépression saisonnière, celle qui nous file le spleen dès que les températures baissent, ainsi que la luminosité. Elle revient chaque année en automne, mais ce n'est pas une fatalité. On verra tout ça avec le psychiatre, le professeur Michel Lejoyeux.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera incarnée par le chef Abdel Alaoui. Ce midi, il nous fera saliver avec de la soupe et une recette simplissime de soupe au potiron. Ensuite, on ira voir du côté des nouveaux loisirs à la mode en ce moment avec Soizic Belin. Si vous avez envie de pimenter votre vie amoureuse, la nouvelle tendance qu'elle a dénichée pour nous va attirer votre attention. Elle va nous présenter un cours de danse d'un genre un peu particulier. Ouh là là, il va y avoir de la sensualité dans l'air, je pense.
Et puis, nous finirons cette séquence avec la chronique de Cécile Coumeau, notre spécialiste des tendances pour les quinquas et plus. Et aujourd'hui, elle va nous faire bouger puisqu'elle va nous présenter la nouvelle marche nordique.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, aujourd'hui on va se poser une question philosophique pour bien démarrer la semaine. Doit-on absolument donner ou trouver un sens à sa vie?
Et oui Mélanie, c'est ce que nous verrons en détail dans un instant avec notre invité, le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir. Mais avant cela, pour les questions vraiment fondamentales de la vie, on se tourne toujours vers notre maître à
penser.
Ici à Europe 1, j'ai nommé Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, elle était belle cette question. Doit-on donner un sens à sa vie? Déjà merci de m'accueillir, merci de donner un sens à ma vie chaque matin ici. C'est une question qu'on se pose régulièrement et que je pose très peu dans la rue. Je me promène avec un micro et j'ai demandé aux Français comment donner un sens à sa vie. C'est pas simple. Hein.
Pour donner un sens à ma vie et ne pas déprimer, en fait, je me donne des objectifs réalisables à court terme plutôt que de viser des choses sur des années et des choses que je sais que je ne pourrais pas ou alors où j'ai très peu de chances d'y arriver. Et donc, je ne rêve pas des choses que je pourrais jamais avoir, mais plutôt petit à petit des choses qui sont réalisables et qui me rendent ma vie plus belle.
Moi, de manière générale, j'aime bien tout planifier. Donc, finalement, j'aime bien faire des to-do list par jour et savoir un petit peu ce que j'ai à faire et remplir toutes ces petites cases que je me mets. Ça me permet d'ordonner ma vie et du coup plus ou moins de donner un sens à, aux choses que je fais et à la façon dont j'avance.
Je pense que ce qui donne plus de sens à une vie, c'est de tomber amoureuse.
L'amour.
Il y avait la jumelle de Julia, la numéro 2,
qui
fait des cases et qui organise tout. Ouais.
Je ne sais pas si ça donne un sens à sa vie, en tout cas ça donne un programme déjà, c'est pas mal.
Et est-ce que l'amour donne un sens à une vie? Alors on a l'impression que oui. Je me suis tourné vers des spécialistes, des experts. Non, je plaisante, j'ai interrogé des enfants tout simplement et je leur ai demandé à quoi ça sert en fait dans la vie d'avoir un amoureux ou une amoureuse.
Avoir un petit partenaire quoi. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui te fait des trucs à ta place.
Un amoureux, ça sert à avoir du réconfort, de pas être tout seul chez soi. Si on veut avoir des enfants, et ben on a un amoureux pour ça.
Les amoureux, ça se fait des bisous, ça se tienne la main. Et aussi, ils sortent toujours ensemble et ils sont toujours à côté.
Et en fait, les amoureux, pour savoir mieux, c'est un petit cupidon qui s'appelle Cupidon. Il tire une flèche. Après, l'autre, il devient amoureux de l'autre.
Wow, c'est comme ça que d'imagination en tout
exactement
cas.
Exactement comme ça que ça se passe. Bah, y a des gens beaucoup plus terre à terre quand je leur ai demandé comment donner un sens à votre vie.
Gagner un max d'oseille. Un max d'oseille.
Ah, c'est terre à terre. Je suis retourné vers les enfants. Qu'est-ce qui est le mieux dans la vie, être riche ou être heureux? On a l'impression que c'est être heureux. Alors pour les enfants, pas forcément.
Bah, moi, il faut être riche parce que, parce que l'argent, ça rend heureux. Voilà.
Il vaut mieux être heureux parce que être riche, ça ne vaut pas forcément l'argent. Des fois, on est riche, mais on n'est pas du tout heureux. Et puis, on ne sait pas quoi faire de son argent.
Vous l'aurez compris aujourd'hui.
Ça, philosophe est dur, hein, déjà chez vous. Ouais.
Mais ça fait partie des rares fois où non, je n'aurai pas une réponse définitive. J'attends l'émission pour savoir comment donner un sens à sa vie.
Allez, parfait. Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette introduction pleine de finesse à notre sujet du jour. Grâce à vous et les témoignages que vous nous avez apportés, on est déjà presque sur la bonne voie. Allez, à présent, on va donner la parole à notre invité. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sociologue, l'auteur du livre Jung, Un voyage vers soi, paru aux éditions Albert Michel. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce grand psychiatre en quelques mots, car il est moins connu que Freud, mais ils se sont connus, je crois, tous les deux, par contre.
Bien sûr, Carl Gustav Jung est suisse, il est médecin psychiatre, et c'est un des fondateurs de la psychologie des profondeurs. Alors, il est beaucoup plus jeune que Freud, il a 19 ans de moins que Freud, mais ils se sont rencontrés en 1907, et pendant 7 ans, il y a eu un échange extrêmement fécond. Ils ont échangé plus de 300 lettres, ils se sont vus souvent, ils ont progressé ensemble dans le développement de la psychanalyse. Et puis, ils ont fini par diverger sur des points fondamentaux. Notamment, vous savez que Freud considérait que la sexualité était le moteur de l'être humain et que c'était l'essentiel de la libido. Et Jung disait qu'il y a aussi une dimension dans l'être humain qui n'est pas, qu'on ne peut pas réduire à la sexualité. L'être humain aspire justement à donner du sens à sa vie. Il aspire à une forme de spiritualité, il aspire à toutes les questions métaphysiques. Et tout ça, ce n'est pas une illusion. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Et donc, ils ont divergé sur cette question-là et puis sur la question de l'inconscient. Puisque Freud considère que l'inconscient est uniquement personnel, alors que Jung nous dit qu'on hérite d'un inconscient collectif, c'est-à-dire de symboles universels, ce qu'il appelle des archétypes, de tous les gens qui ont existé avant nous, de toutes les cultures dans lesquelles nous sommes imprégnés. Et donc, il y a eu là, bon, leurs chemins se sont séparés, mais on peut dire que Jung a quand même été fortement marqué par Freud.
Alors, vous écrivez que Carl Gustav Jung est le père du développement personnel. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion?
Alors, tout simplement parce que Jung a été, à ma connaissance, le premier psychologue à dire, au fond, la psychologie n'est pas là uniquement pour guérir des maladies. Mmh. Alors qu'à l'époque, au début du XXe siècle, on considérait que voilà, on allait à l'asile si on allait voir un psychiatre, si on était malade. Et il dit non, pas du tout. La psychologie nous permet de nous connaître nous-mêmes, nous permet de faire un travail de croissance. Et donc, il nous dit, avant toute la vague du développement personnel qui est développée aux États-Unis à partir des années 60, il nous dit, au fond, la psychologie est un travail de connaissance de soi qui permet de grandir, de s'améliorer, de faire des expériences intérieures et donc d'être plus heureux. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a fondé toute cette vague de la psychologie positive qui nous dit on ne fait pas de la psychologie uniquement pour soigner des névroses, mais aussi pour apprendre à être plus humain, à mieux se connaître, à travailler sur soi. Et en ce sens-là, c'est un pionnier comme dans beaucoup de domaines. Hein. C'est quelqu'un qui est très visionnaire.
D'ailleurs, c'est quoi la définition actuelle, je ne sais pas, du développement personnel? Parce qu'on est un peu perdu ces dernières années. Il y a des tas de livres partout de soi-disant développement personnel pour nous aider à trouver l'amour, pour être mieux dans la vie. C'est ça le développement personnel?
L'idée du développement personnel, c'est l'idée de mieux se connaître pour être plus heureux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à travers... Vous savez, quand Socrate dit « connais-toi toi-même », il était déjà dans cette idée que la connaissance de soi permet d'être plus lucide et permet finalement de découvrir ma nature singulière, c'est-à-dire qui je suis et comment me réaliser en tant qu'être humain singulier. Et là où Jung aussi a une particularité très forte, c'est qu'il nous parle tout au cœur de son œuvre, et j'en parle beaucoup dans le livre, du processus d'individuation. C'est-à-dire, il nous dit chaque individu est conditionné d'abord par sa psychologie, sa psyché, ses problèmes d'enfance, etc. Il est conditionné par sa culture, par le milieu dans lequel il est, par sa religion. Il nous dit qu'il doit devenir un individu singulier, c'est-à-dire apprendre à découvrir qui il est comme individu unique et donc à faire le tri dans tout ça et à découvrir quelles sont les croyances qui sont vraies pour lui, quelles sont les personnes qui sont bonnes pour lui, quel est le métier qu'il doit faire et s'il est banquier alors qu'il a envie d'être pianiste, qu'il change de métier ou l'inverse. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont pianistes qui rêveraient d'être banquier, j'en sais rien.
C'est plus rare, j'ai l'impression.
Découvrir sa nature singulière. Et donc ça, c'est aussi une idée très très forte sur laquelle on est de plus en plus, c'est l'idée de l'accomplissement de soi.
Clément Lanoux.
Alors ça existe, vous le disiez, depuis les années 60 aux États-Unis. Comment on explique que depuis une dizaine d'années, il y ait vraiment un intérêt encore plus fort pour le bien-être de sa personne?
Je crois que c'est lié à l'effondrement des religions. C'est-à-dire qu'on a eu successivement tout ce qui donnait du sens au niveau collectif. C'est-à-dire les religions se sont de plus en plus effondrées en Europe. Le politique s'est de plus en plus effondré. L'économie, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'argent, mais ils savent que ce n'est pas ça qui va les rendre le plus heureux. Enfin, globalement, il y a quand même une remise en question de toutes les grandes idéologies collectives. Et donc, on recherche un bien-être personnel. C'est-à-dire que les gens se disent, mais comment moi, à mon petit niveau, je peux essayer de m'épanouir dans ma vie, de trouver les clés d'un bonheur plus humble, plus modeste, vous voyez, avec des objectifs plus, je dirais, plus à hauteur de chacun.
Nous sommes devenus nos propres dieux, alors.
Et oui, d'une certaine manière.
C'est incroyable. Merci Frédéric Lenoir, vous restez évidemment avec nous. On va continuer cette quête, cette recherche du sens de notre vie dans quelques minutes. D'ailleurs, y a-t-il un âge plus propice à ce type de cheminement intérieur? Est-ce réellement un passage obligé pour chacun d'entre nous, qu'on en soit conscient ou non? D'ailleurs, on va voir tout ça ensemble ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bienfait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission dans laquelle on parle de notre vie quotidienne dans tous ses aspects. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors on se pose cette question aujourd'hui, Mélanie. Doit-on absolument donner ou trouver un sens à sa vie ? C'est ce que l'on tente de faire avec notre invité Frédéric Lenoir qui est en studio avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes philosophe et sociologue, l'auteur du livre Jung, un voyage vers soi aux éditions Albin Michel. Bon, alors Frédéric Lenoir, à partir de quel âge on commence finalement cette quête spirituelle en général, cette recherche de sens à sa vie ? Est-ce qu'il y a un âge plus propice qu'un autre à cette démarche ?
Ben vous savez, ça commence dès la petite enfance. Quand les enfants vous disent à 3-4 ans « Maman, pourquoi je suis sur Terre ? Est-ce que Dieu existe ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Grand-mère, où est-ce qu'elle est actuellement parce qu'elle est partie ?» Et ben tout ça, ce sont des questions métaphysiques. Mmh. Et Kant nous dit la métaphysique, ce sont des questions d'enfants auxquelles les adultes cherchent à répondre. Parce qu'au fond, les enfants posent toutes ces questions, et c'est là que Jung nous dit, mais c'est des questions fondamentales, on ne peut pas les refouler. Mmh. Alors que Freud nous dira, ce sont des illusions, donc ça ne sert à rien de se poser ces questions. Il dit non, elles habitent le cœur de l'homme, et l'être humain est le seul animal qui se pose ces questions. Les autres animaux ne se posent pas de questions religieuses, métaphysiques. Et pourquoi ? Parce que l'être humain est conscient de sa mortalité. Et parce qu'il est conscient de sa mortalité, très tôt, du coup, il se dit, mais pourquoi je suis sur Terre ? Est-ce que ma vie sur Terre a un sens ? Et la question du sens, elle est très importante, parce qu'elle a un double sens, on pourrait dire. Ça veut dire direction, le sens. Et quand, dans votre reportage, on parlait tout à l'heure, les gens, c'était direction. C'est-à-dire, quelle direction je donne à ma vie ?
Tout à fait.
Et c'est important de donner une direction à sa vie, de se dire, qu'est-ce qui est prioritaire ? Quelles sont les valeurs les plus importantes ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est la liberté ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est l'argent ? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser ? Et du coup, d'organiser ma vie, de faire des choix en conséquence. Donc ça, déjà, ça aide à vivre, de se donner une direction. Mais le sens le plus profond, c'est signification. Mmh. Et là, on retombe sur la métaphysique. C'est-à-dire, la vie humaine, en tant que telle, a-t-elle un sens ?
Qu'est-ce que je fais ici, quoi ?
Et voilà, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Est-ce que je suis juste là pour gagner de l'argent, fonder une famille, puis mourir, etc. ? Ou est-ce qu'il y a un autre sens plus profond ? Et c'est là que toutes les spiritualités, philosophies et religions du monde sont nées à cause de cette question-là. Alors, vous posez la question de l'âge. Mmh. On se pose cette question enfant, puis après on la refoule. Parce qu'on nous dit on n'en sait rien, etc. Et tout. Puis après on s'occupe de son boulot, de sa vie amoureuse, etc. Et puis ça revient...
À la quarantaine.
À la quarantaine. Ouais. À la crise du milieu de la vie, Jung a beaucoup parlé de ça. Il nous dit c'est à la quarantaine que l'être humain, une fois qu'il a réalisé plein de choses pratiques, il se dit mais attendez...
Ou qu'il a raté
je rentre dans la seconde partie de ma vie et la mort arrive déjà en tête. Et on se dit, mais est-ce que je vais passer à côté de ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et là, on revient, c'est pour ça que beaucoup de gens changent de métier, changent des fois de conjoint. Enfin, il se passe une crise du milieu de la vie. Et c'est là que souvent, Jung nous dit, c'est là que commence le processus d'individuation. C'est-à-dire que les gens se posent des questions. Qui je suis ? Qu'est-ce qui me convient vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être heureux ? Et donc là, on voit effectivement... À nouveau, la question du sens réapparaît.
Et Jung lui-même l'a subi, cette crise, je crois. Et il a écrit sur le sujet, c'est ça, vers la quarantaine. Racontez-nous.
Il a rompu avec Freud, je crois qu'il avait 38 ans. Et puis, il a fait une dépression nerveuse, parce que c'était quand même un moment très important de sa vie. Il y a eu la guerre de 14-18, c'était aussi un moment très difficile. Et à ce moment-là, il est parti dans des expériences intérieures. Il a plongé dans son inconscient. Il a failli devenir fou, d'ailleurs. Il le dit, il a dit « j'ai frôlé la folie ». Ce qui m'a sauvé, c'est ma famille, c'est mon métier, c'est mes enfants. Il avait 4 enfants. Donc, d'avoir une vie structurée, si vous voulez. Et puis là, il a découvert des choses essentielles à partir de l'exploration de son inconscient. Et il a développé ensuite toute sa pensée, qui est géniale, qui est lumineuse, mais à partir de son expérience intérieure, dans laquelle il n'avait pas de guide. Il est parti explorer sa propre psyché.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus d'individuation, puisqu'apparemment c'est Jung qui a été le premier à en parler. C'est quoi ça ?
Le fondement, j'ai déjà dit, c'est de dire devenir soi. Mm-hmm. Mais pour devenir soi, il donne plein d'outils pratiques.
Mm-hmm.
Et il nous dit, je vais donner deux, trois exemples. Oui. Il dit par exemple, il existe chez les femmes une dimension masculine qu'il appelle l'animus, et chez les hommes une dimension féminine qu'il appelle l'anima. Il dit souvent, c'est refoulé. On n'en a pas conscience, on le refoule, on le rejette. Il dit, faut découvrir cette dimension-là, l'intégrer consciemment à notre personnalité, parce que c'est ce qui nous permet justement de nous développer dans toutes les dimensions bisexuelles de notre personnalité. Il nous parle aussi de l'ombre. Il dit, chacun d'entre nous, on a une ombre, c'est-à-dire une part refoulée qu'on ne veut pas voir. C'est la pire chose qu'on a en nous. Alors, on le voit chez les autres. C'est-à-dire qu'on se dit, ce type, il est radin, c'est épouvantable, mais on ne réalise pas que nous, on est radin aussi. Donc, il nous dit, l'effet miroir nous permet souvent de voir que ce qu'on ne supporte pas chez les autres, c'est souvent notre ombre. Quelque chose qu'on a soi-même et qu'on ne veut pas voir. Donc il nous dit apprendre à découvrir notre ombre et l'accepter, l'intégrer pour la dépasser. Il nous parle aussi de la réunion des contraires. Il nous dit nous sommes plein de polarités et on a besoin de ces polarités pour grandir. Donc les polarités, c'est dans la vie entière. C'est-à-dire le jour, la nuit, le bonheur, le malheur. Si le malheur n'existe pas, vous ne sauriez pas ce que c'est que le bonheur. Si la nuit n'existait pas, vous n'apprécieriez pas la lumière. Et donc, il nous dit, découvrez en vous que toutes ces fragilités, ces défauts sont nécessaires à la construction de votre conscience. Parce que c'est en ayant conscience de toutes les polarités, les contraires qu'il y a en vous, que vous allez grandir en conscience. Donc voilà quelques exemples pratiques que je développe dans mon livre, parce que c'est assez long à expliquer tout ça, qui permet à chacun de se construire finalement à travers une observation de soi.
Et cette construction, cette observation de soi, c'est, vous utilisez le terme de voyage, hein, voyage vers soi, c'est le sous-titre de votre livre. Pourquoi ce mot voyage ?
Bah parce que c'est comme un voyage, c'est-à-dire qu'on perd un peu ses repères hein, quand on commence à s'observer, à écouter son inconscient, à écouter ses rêves. Hein. Moi, je conseille vivement, comme Jung, de noter ses rêves ou de les enregistrer. Ça nous dit plein de choses sur nous-mêmes. Notre inconscient nous parle à travers les rêves. Et puis, quand on part en voyage, donc on est dans l'inconnu, on part vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est très excitant. Et puis, on perd un peu sa zone de confort. Et puis, dans un voyage, bah, on découvre un tas de choses qui nous font nous transformer. Et on n'est pas le même quand on a fait un voyage que quand on est parti.
Oui, Clément.
J'avais une question aussi pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, qui n'ont pas encore 40 ans, qui disent qu'ils veulent anticiper le fait de se poser des questions. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un pour donner, en tout cas trouver un sens avant les autres ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ?
Moi, j'ai développé une association qui s'appelle Sève, ça veut dire savoir être et vivre ensemble, où on développe des ateliers de philosophie avec les enfants. Mmh. Et on fait ça notamment dans les écoles, hein, les écoles publiques, on a en partenariat avec l'éducation nationale. Et cette association a formé en 5 ans plus de 5000 animateurs, des enseignants et des non-enseignants, qui vont dans les écoles et on fait des ateliers philo. Et les ateliers philo, c'est formidable pour les enfants. Merci. Parce que c'est le seul endroit où on leur dit « qu'est-ce que tu penses toi ?» C'est-à-dire pas simplement répéter ce que le professeur a dit, ce que le maître ou la maîtresse a dit. Et les enfants sont très heureux parce qu'ils vont chercher au fond d'eux-mêmes. C'est des petits philosophes, les enfants.
Génial.
Ils ont des fois des trouvailles, des perles de sagesse. Et puis le fait de travailler ensemble, de discuter, d'échanger, d'apprendre à débattre, et ben ils développent une intelligence collective. Et ils apprennent que les autres ont quelque chose à leur dire qui les fait grandir, qui les fait progresser. Et
je peux cette vous génération-là, dire que... elle n'aura pas de crise de la quarantaine
Je
alors,
pense
du
que
coup
cette génération, ils vont cultiver la question du sens, la question des questions essentielles. Et quand vous leur dites de quoi vous voulez parler, quelles sont les questions dont vous voulez parler, on va faire de la philo, ils vous disent toujours, on veut parler du bonheur, du sens de la vie, de l'amour, de la mort, les grandes questions. Et c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que les enfants ont besoin de cultiver la sagesse.
Alors parfois, pour donner un sens à sa vie, on n'y arrive pas, ça nous dépasse. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a recours à des voyants, on cherche nous-mêmes à interpréter nos rêves. Est-ce que Jung était du même avis ? Qu'est-ce qu'il pensait de tout ça ?
Alors Jung, en fait, il est très ouvert. C'est quelqu'un, je vous l'ai dit, il a fait des expériences intérieures. Il s'est rendu compte que la psyché, notamment l'inconscient, était au-delà de l'espace et du temps. Et que notre inconscient pouvait avoir accès à des informations connaissant le futur, par exemple. Les rêves prémonitoires. Les synchronicités. Alors les rêves prémonitoires, il a rêvé de cadavres et de sang en 1913, avant la guerre de 14-18. Oui. Il a fait beaucoup de rêves prémonitoires. Donc il dit notre inconscient est au-delà de l'espace et du temps, ce qui est un phénomène assez inexplicable. Oui. Les synchronicités, c'est lui qui a inventé le mot.
C'est quoi, ça veut dire quoi ?
Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Et vous allez voir comment il l'a découvert. C'est qu'un jour, il fait une séance de thérapie avec une patiente qui rêve, qui lui raconte qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment où elle raconte ça, il y a un scarabée qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le bureau. Et il a dit, mais quelle synchronicité incroyable entre cet événement psychique, le rêve, et cet événement physique. C'est ce qu'on appelle des heureuses coïncidences.
Mais oui. Comme quand on croise quelqu'un dans la rue auquel on a pensé.
Ans, vous avez pensé juste avant, etc. Mais il y en a beaucoup dans la vie, des choses comme ça. Et il nous dit que ce n'est pas lié au hasard, il en est convaincu. Il pense qu'effectivement, là aussi, au-delà de l'espace et du temps, la psyché et la matière, l'esprit et la matière peuvent se réunir. Ce qui expliquerait tous les phénomènes de voyance, de divination, de télépathie, de rêve prémonitoire, de synchronicité. Et il a travaillé pendant 25 ans avec un philosophe, avec un scientifique très connu, Wolfgang Pauli, qui a eu le prix Nobel de physique en 1945. C'est un des fondateurs de la mécanique quantique, parce que Pauli avait observé la même chose. La mécanique quantique, une des révolutions apportées par la mécanique quantique, c'est qu'ils ont découvert que l'observateur influençait l'expérience. C'est-à-dire qu'un observateur, un scientifique qui fait une expérience, selon la manière dont il observe ou selon la personne qui observe l'expérience, le résultat n'est pas le même. Donc il se dit, il y a un lien incompréhensible entre l'esprit et la matière. Et Jung a fait la même découverte. Ils ont travaillé pendant 25 ans, ils ont trouvé une théorie qui nous dit qu'il y a un réel voilé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas avec nos sens, dans lequel il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, où l'esprit et la matière sont réunis. Ils nous disent qu'on ne peut pas encore le prouver avec les outils actuels de la science, mais ça expliquerait tous les phénomènes paranormaux, y compris la voyance, etc. Et pour Jung, ce n'était pas une croyance, c'était un fait. Il faut juste l'expliquer scientifiquement et on y arrivera un jour.
C'est vraiment passionnant. Frédéric Lenoir, on n'en a pas terminé avec nous, avec vous, pardon, et vos conseils pour mener notre quête vers le vrai sens de notre vie à chacun. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si ce sujet vous inspire ou que vous avez une question, je le rappelle, hein, vous pouvez nous laisser un message au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes toujours en studio avec Frédéric Lenoir. Je rappelle que vous êtes philosophe et sociologue, l'auteur du livre « Jung, un voyage vers soi » aux éditions Albin Michel. Alors d'ailleurs, comment sait-on qu'on y est arrivé à trouver du sens à notre vie, du sens à sa vie ? On se sent apaisé ? Que ressent-on après avoir fait ce cheminement, ce voyage ? C'est quoi les signes qui ne trompent pas ?
Non, mais je crois qu'effectivement, le fait de donner du sens à sa vie, même si ça change, hein, on peut très bien à un moment donné donner du sens, par exemple se dire je vais construire une famille, etc. Puis à un autre moment, ça peut devenir un objectif plus personnel ou plus professionnel. On change parfois.
On n'a jamais vraiment terminé,
évidemment. Bien sûr. Et puis de même, si on se donne un sens ultime à travers, par exemple, une forme de spiritualité, elle peut évoluer aussi. Donc c'est jamais figé. Par contre, je crois qu'effectivement, donner du sens donne un apaisement, donne une certaine sérénité. L'être humain est anxieux, l'être humain est angoissé, notamment par la mort. Et le fait de donner du sens, ben, on s'engage dans la vie, on est actif et du coup, ça désangoisse et ça apporte de la paix intérieure.
Alors pour certains, c'est trop dur hein, de trouver un sens à sa vie, donc on s'achète une décapotable. Est-ce que ça marche, ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, provisoirement.
D'accord.
Parce que si vous mettez du sens dans l'ordre de l'avoir, vous serez toujours frustré. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une plus grosse décapotable, qui aura une plus grosse maison, un plus gros yacht, etc. Et donc, c'est le toujours plus, il est sans fin. Mm-hmm. Donc, vaut mieux donner du sens dans l'ordre de l'être, c'est-à-dire la connaissance et l'amour.
Professeur Lejoyeux, vous êtes déjà avec nous en studio, vous êtes notre invité pour la suite, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire, justement ?
Alors, sur les décapotables, donc nous, on est des grands spécialistes, comme vous savez. Moi, je suis très, très heureux du livre de Frédéric Lenoir et je suis très heureux de cette réhabilitation de Jung. Pour deux, trois raisons. D'abord parce que Jung, c'était un vrai psychiatre. Vous voyez, il gérait... Vous savez, on a un vrai sujet en France qui est la coupure entre la psychologie et la psychiatrie. T'as des gens qui réfléchissent sur le bonheur et nous, psychiatres, on s'occupe des plus grands, des malades. Et bien Jung, il s'occupait au quotidien des plus malades qu'il avait dans son hôpital. Et puis par moments, il est parti. Alors je ne vais pas forcément dans tous les domaines où va Frédéric, mais je pense que ce rapprochement psychiatrie-psychologie est vraiment très important. Il y a une autre chose qui me plaît beaucoup chez Jung, c'est sa défense de nos défauts. Vous savez, vous parliez de développement personnel. Ce qui est insupportable dans le développement personnel, c'est qu'on cherche tous nos défauts et qu'on veut les corriger. Jung dit, si on est timide, si on est introverti, c'est vachement bien, c'est une qualité. Du coup, on va plutôt moins dire de bêtises. Donc cette idée, au fond, d'une tolérance de notre nature, c'est aussi très moderne, ça. Hein, au fond, de ne pas avoir une sorte d'idéal de robot, d'un homme complètement sain et complètement normal. Donc voilà, toutes mes félicitations pour ce travail. Et vraiment, moi je le propose souvent aux jeunes médecins qui travaillent dans le service de lire un auteur qui les trouble un peu.
Alors nous avons une question de Sylvaine hein, sur Instagram. Elle dit « Je me suis mise à peindre lorsque j'ai eu 52 ans, alors qu'auparavant elle ne s'intéressait pas du tout à l'art. Est-ce que c'est fréquent de se tourner vers l'art comme ça ? Elle dit qu'elle est complètement addict à ses pinceaux désormais qui lui apportent une sorte de paix intérieure. »
Alors c'est très jungien aussi.
Ah, ben, voyez.
Parce que Jung a développé une méthode qu'il appelle l'imagination active, où il nous dit qu'il faut être à l'écoute de notre imaginaire, de nos rêves, de tout ce qui vient de l'inconscient. Il faut le traduire de manière artistique. Et Jung a peint. Il a fait des peintures assez extraordinaires. C'était un bon peintre. D'ailleurs, il a un livre qui s'appelle Le Livre Rouge, dans lequel il y a beaucoup de peintures qu'il a fait, des mandalas, des peintures symboliques, etc. Mais il dit, on peut écrire, on peut peindre, on peut faire de la poterie, etc. Mais l'art, c'est un moyen d'expression essentiel pour établir un dialogue entre notre conscient et notre inconscient. Donc oui, l'art est une forme de créativité qui aide l'humain à se sentir en paix, à grandir, à se découvrir.
Allez, on prend une dernière petite question d'Anne-Marie au 3921, notre répondeur. Elle est inquiète, Anne-Marie, car son mari est très radical dans sa quête de spiritualité. Il est devenu bouddhiste, fait des jeûnes très stricts pendant des jours. Il s'isole beaucoup et elle a peur que ça aille trop loin. Est-ce que ça va lui passer ? Comment peut-elle l'aider ?
Moi, je ne rentre pas dans des jugements personnels.
Non,
parce qu'on ne sait pas jusqu'où...
Mais ça peut aller par ce genre de spirituel-là et de quête extrême.
Le bouddhisme ne fait pas peur du tout. Parce que le bouddhisme, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire, c'est plutôt trouver un équilibre, ni trop d'ascèse, ni trop de débauche. Trouver un équilibre et un art de vivre qui me semble assez mesuré, rationnel. Donc après, il y a des gens qui ont besoin de passer par une phase un peu radicale quand ils découvrent quelque chose.
L'isolement total.
Oui, une forme de spiritualité, ça les nourrit tellement que dans un premier temps, ils vont peut-être un peu loin dans la pratique. Et puis après, la vie les remet un peu en place et on se rééquilibre.
Très bien. C'est comme, comme nous avec le jogging, Mélanie. Hein,
quand on peut plus s'arrêter.
Et puis après, on s'arrête, on se calme.
Merci beaucoup, Frédéric Lenoir, de nous avoir accompagnés ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Pour ceux qui voudraient davantage d'informations, je rappelle donc votre excellent livre, Jung, un voyage vers soi, aux éditions Albin Michel.
Oui, merci encore à vous. À présent, Mélanie, on va passer à une autre thématique. Comment lutter contre la dépression saisonnière, le spleen de l'automne qui revient quasi chaque année et fait de nombreuses victimes. Peut-on l'éviter? Comment combattre la morosité ambiante, c'est notre dossier santé du jour.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Tout de suite, nous accueillons donc de façon plus, on va dire, officielle, notre invité santé du jour. C'est vous, professeur Michel Lejoyeux. Bonjour.
Bonjour et merci de cette invitation.
Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre « Les quatre temps de la Renaissance » publié chez J.C. Lattès. Alors pour commencer, est-ce que c'est normal, déjà à cette période de l'année, d'avoir un petit coup de blues, on va dire, un coup de mou? C'est dû à quoi précisément? Chaque année, en novembre, comme ça, il y a cette lassitude qui s'installe un peu de façon générale.
Il y a vraiment deux tableaux qui sont complètement différents. Quand on est sorti ce matin avec un temps humide, froid, pas beaucoup de soleil, on n'a pas explosé de bonheur. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, pas particulièrement.
Il faisait nuit quand j'ai accompagné ma fille à l'école, je crois.
Voilà, hein, donc vous étiez dans un état, vous disiez, ça tombe bien qu'on prévoit une émission sur la dépression saisonnière. Donc, l'émotion un peu désagréable, un peu négative, qui arrive en hiver. Alors que par contre, quand le printemps, qui ne va pas être si loin, hein, va arriver, on va avoir du soleil, on va être beaucoup plus exalté, tout ça est strictement normal. Mm-hmm. Donc que nos émotions changent, que notre niveau d'énergie change aussi un petit peu. Honnêtement, on est moins porté vers l'activité physique. Vous rêvez de décapotable, mais la décapotable, vous voyez, vous en servirez.
Ah ben là, ce n'est pas possible. Hein,
ce n'est pas possible, hein, pas tout de suite, la décapotable. Donc tout ce qui est du champ de l'émotion qui fluctue est complètement normal. Mon métier de médecin, c'est de ne pas passer à côté de ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier ou les vraies dépressions saisonnières. Ah. Avec trois indices simples. Le premier, c'est la perte d'envie. Je me dis, même s'il faisait beau, j'aurais envie de rien faire. Ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est la culpabilité. J'ai l'impression que je ne vaux rien. J'ai l'impression que je suis trop payé. Vous voyez le jour où vous avez l'impression que...
Non, c'est pas le cas.
Ça va, bon, très bien. Très bien, donc détendez-vous, vous n'avez pas de dépression.
On est bien, Julia, tout va bien.
Et le troisième point?
Le deuxième aussi, vous avez l'impression qu'on est trop gentil avec vous, que votre mari est trop sympa avec vous.
Non, c'est normal, quoi.
Donc continuez, vous n'êtes pas déprimé. Et le troisième point, c'est le ralentissement. Mm-hmm. C'est la fatigue de l'esprit et la fatigue du corps. Donc, quand on plus de l'émotion, on a ces trois critères-là.
Là, on est en dépression, c'est ça?
Culpabilité, ralentissement. Là, il faut demander un avis médical.
D'accord. On peut considérer que ce n'est plus de la tristesse. Hein,
on est très au-delà de la tristesse. On est face à une maladie qui va se traiter, éventuellement avec des médicaments. Rappelons-nous quand même que la présence d'une dépression maladie multiplie par 5 le risque de suicide. Hein, donc, on est face à une maladie potentiellement mortelle.
Mais qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on est victime d'une dépression dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a plein de modifications, mais il n'y en a pas une très simple. Globalement, si vous faites une imagerie de cerveau de quelqu'un qui est déprimé et de quelqu'un qui va bien, vous ne voyez pas de différence.
D'accord.
On a des mini-différences autour des neuromédiateurs, de la sérotonine, de la dopamine. Mais mon métier reste formidable parce que l'explication biologique définitive de la dépression n'existe pas. Mmh. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a une association entre un mode de vie, des médicaments et une psychothérapie qui guérit toutes les dépressions. Donc, c'est vraiment un diagnostic qu'il ne faut pas rater.
Ah, vous êtes très optimiste. Toutes les dépressions.
Quasiment toutes les dépressions.
Et si on ne laisse pas traîner aussi, c'est ça qui est important,
non,
je crois.
Enfin, non, vaut mieux pas laisser traîner parce que c'est une souffrance, c'est une invalidité considérable. Mais les vraies dépressions se guérissent. Ce qu'on ne guérit pas, c'est les personnalités qu'on appelle pathologiques. Les gens qui sont malheureux depuis toujours, les gens qui viennent me voir en me disant « je suis triste depuis que je suis né », je leur dis que voilà, les miracles, c'est peut-être Jung qu'en faisait, mais moi j'en fais un peu moins dans mes consultations. Mais quand quelqu'un brutalement s'effondre avec ces signes qu'on a dit, perte d'envie, perte d'énergie, on les traite, on les guérit, à la condition qu'on les reconnaisse, qu'on ne fasse pas une sorte de thérapie de comptoir, de tape sur l'épaule, allez, vas-y, prends sur toi, ça ira mieux. On ne le fait pas pour les diabétiques, on ne le fait pas pour les hypertendus. Donc c'est vraiment, et c'est un enjeu majeur en France que de reconnaissance des maladies dépressives. Vous savez, on est dans un pays où on a le plus grand nombre de consommations de boîtes d'antidépresseurs par habitant, ce qui est scandaleux parce qu'on prend des antidépresseurs pour des émotions négatives, mais on a aussi le plus grand nombre de vrais déprimés non traités.
Ah oui.
On a un double mauvais record. Donc si on peut déjà baisser ce record-là et reconnaître les maladies dépressives et les traiter, on va faire un vrai progrès en termes de santé des populations.
Est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus touchées que les hommes par cette maladie-là, la vraie dépression encore
Absolument.
Une fois ?
Absolument, nous n'avons pas les mêmes maladies mentales entre les hommes et les femmes. Les hommes boivent plus quand ils vont mal, jouent plus. Les femmes vont avoir plus tendance à avoir ce qu'on appelle des maladies de l'émotion, qui sont les troubles anxieux et les troubles dépressifs, dont le ratio est très clairement supérieur, très clairement supérieur chez les femmes. Mais regardez la toxicomanie, on est meilleur chez les hommes. Donc vraiment, l'un dans l'autre...
Vous êtes meilleur, vous êtes plus
atteint. Il y en a pour tout le monde.
On est plus atteint, on est beaucoup plus atteint sur alcool, sur toxicomanie. Donc la pathologie mentale en fréquence est à peu près comparable. Pour des raisons probablement biologiques et peut-être environnementales, elle va s'exprimer différemment chez l'homme et chez la femme.
Professeur Le Joyeux, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques minutes. On va revenir avec vous sur notre sujet du jour, la dépression, ou plutôt la déprime saisonnière, qui est tout de même moins grave que tout ce que l'on vient de décrire à l'instant. Comment repérer ce spleen hivernal et comment le contrer, surtout pour retrouver la pêche et notre entrain habituel, Mélanie. Mais quand il fait nuit à 17h et que tout nous pousse à hiberner sous la couette, c'est vrai que c'est pas simple. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en train d'apprendre à repousser cette plaie classique au mois de novembre, la déprime saisonnière. On fait cela avec le professeur Michel Le Joyeux. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre « Les quatre temps de la Renaissance » publié chez J.C. Lattès. Alors, on va voir toutes les solutions pour lutter contre ce spleen saisonnier. Et le premier conseil que vous donnez, c'est faites du sport. Non mais sérieusement, ça peut nous aider à aller mieux, bouger pour garder le moral, ça s'est prouvé ?
Bien sûr. Vous savez, il y a une étude qui est sortie cette semaine qui montre que les antidépresseurs agissent beaucoup mieux et toutes les thérapies de la dépression agissent beaucoup mieux dès qu'on bouge. Quand on bouge, alors là pour le coup vous me parliez d'un rationnel biologique, on a un effet, on va augmenter ses endorphines, vous en apercevez d'ailleurs. Quand vous avez bougé, vous avez moins mal, vous avez un peu des contractures, mais l'endroit où vous aviez mal, vous avez moins mal. Et on augmente un facteur considérable qui est le facteur de croissance des neurones. On prévient l'Alzheimer. On entretient sa mémoire.
Alors, on devient plus intelligent en bougeant ?
Déjà, en tout cas, on oublie moins.
D'accord.
On oublie moins. Mais vous savez, plutôt que de faire des mots croisés terribles ou d'entraîner son cerveau en étant assis à sa table tout l'hiver, on sort, on bouge. Il y a une étude munichoise formidable qui vient de montrer que quand on marche 10 minutes dans le froid, nos copains munichois le savent.
Ils ont l'habitude.
Pendant 10 minutes, on va augmenter de 30% son rythme cardiaque et en même temps, on augmente de 30% son niveau de bien-être. 10 minutes, on les fait marcher 10 minutes.
C'est pas grand-chose en plus, 10 minutes, hein, c'est faisable.
C'est pas grand-chose. Ouais. Donc vous voyez, ce qu'on attend, c'est pas le marathon, c'est pas l'épuisement chaque jour, c'est même pas la performance. Nos collègues cardiologues disent qu'il faut muscler son cœur. Pour muscler ses émotions, il faut juste ne pas être sédentaire. Il faut résister à cette tendance que nous donne la météo.
Et on a le droit de mettre un manteau quand même, hein, marcher.
On a le droit de mettre un manteau, absolument. On a le droit de mettre un manteau. On a le droit aussi de mettre des chaussures de marche. On est programmé pour se dire, au printemps, je commence à bouger. En hiver, j'arrête de bouger. Mmh. Et peut-être qu'une des choses qui nous déprime le plus, c'est cette sédentarité un peu conventionnelle qui nous paraît obligatoire l'hiver. Alors, c'est moins naturel. Il y a moins de tentation de marcher au soleil. Mais il va falloir chercher toutes les occasions. On a même vu que quand vous marchez à l'extérieur, vous allez voir du bleu. Là, on a un peu de bleu dans le studio.
Ouais, hein, non, c'est bien. On triche un peu. Tout est bleu.
Du vert. Et que ces effets des couleurs, ces effets de l'air, donc les quelques moments d'ensoleillement ou les quelques moments de lumière, il va falloir en profiter. Bien sûr qu'il y a des techniques de luminothérapie, mais on a à notre portée cette capacité à s'immerger dans la lumière au moins 10 minutes par jour. Donc on sort de cette idée, l'hiver, je me cocoune, je reste sur moi. L'hiver, je continue à bouger de manière raisonnable.
Alors, autre technique contre le spleen que vous prodiguez, c'est opter pour le changement. Je veux dire, par exemple, refaites votre décoration dans votre salon. Julie, elle adore hein, tout ça, ranger, changer les meubles de place, tout ça. Et d'ailleurs, elle est tout le temps de bonne humeur. Je ne sais pas si c'est lié à cette manie de ranger, de tout changer de place, mais comment ce changement agit sur notre cerveau ?
Alors, il y a une recherche très étonnante qui a étudié avec la personnalité les gens qui ont plutôt tendance à changer, à bouger, et ceux qui sont dans la routine. Et on s'est aperçu que ceux qui ont ce qu'on appelle un niveau élevé de recherche de nouveauté, de recherche de changement, vont plutôt mieux, résistent notamment plus. On s'en est aperçu pendant la pandémie. Vous voyez, qu'est-ce qui n'a pas changé quand on s'est retrouvé du jour au lendemain confiné ? Donc ceux qui tolérer les changements, était plus équipé. Alors, soit vous êtes, comme Julie, formidable, c'est-à-dire vous êtes une changeuse, si j'ose dire, naturelle, soit sinon, il va falloir faire appel à son imagination, c'est ce que je propose dans le bouquin, et chercher quelques petites expériences de changement.
Ça alors, pourrait être quoi ?
Je vous fais un défi pour demain.
Allez-y, oui, allez-y.
Une couleur de pull que vous n'oseriez pas porter à Europe 1.
Ah, pas mal. Moi, j'ai un vieux rose dégueu. Je vais le mettre.
Demain ?
Ouais, demain, je le mets.
Donc, vos auditeurs, je verrai. Hein,
je suis pas fan du rose non plus. Alors, on vient en rose demain.
Ouais, demain, d'accord. Okay. Rose.
Donc, ça, vous voyez, et vous allez vous regarder quand même différemment. Vous allez vous regarder bizarrement. Vous allez dire
ça
vraiment.
C'est très confortable. On n'aime pas être avec un truc qu'on n'aime pas.
On n'a vu plus des psys qui nous donnent des idées. L'autre chose, par exemple, dans ces petites expériences de sortie de sa zone de confiance, on va adresser la parole à quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps. On reprend, moi je le fais, c'est un exercice que je propose en consultation. On regarde le répertoire de son téléphone et on voit celles et ceux qu'on aime bien.
Au pif, comme ça tac,
non, ceux qu'on aime bien quand même.
Qu'on aime
quand
bien, même. Évidemment. Ouais. Et qu'on n'a jamais appelé. On va avoir besoin de renouvellement.
Julia, c'est qui ? Vous êtes tombée sur qui ?
J'en ai beaucoup.
Non mais oui. On va aussi essayer avec des aliments. On a aussi un peu tendance à manger de manière routinière. Vous savez, cette idée qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé, c'est vrai. Mais quand tous les jours, on prend le même plat, on finit par rentrer dans une routine.
C'est vrai que je fais les mêmes courses toutes les semaines, je crois.
Après, c'est pas valable pour le couple, ça. On change pas de...
Non, je vais pas vous proposer ça pour le couple. Vous allez commencer par le plat, hein, si vous voulez bien. On va pas être à l'origine de grands drames. Donc, vous gardez le couple comme il est.
Mais on change de pull et on change d'aliment.
Vous changez de pull, vous changez d'aliment. On va peut-être changer aussi de comportement, puisque vous me parlez du couple. Mm-hmm. En général, dans un couple normal, on se fait des reproches, on râle un peu.
Oui.
Je lis dans vos pensées, Julie. Hein,
oui, non, mais ça peut m'arriver, effectivement, mais voilà. Pas toujours.
Oui, mais quand les chaussettes traînent tous les jours à côté de la corbeille, voilà. Hein, d'un moment, on peut en avoir marre.
On va faire quelque chose qu'on n'a quasiment jamais fait dans son couple.
Dites-moi.
On va chercher un motif de gratitude.
Ah oui.
On va écrire une petite lettre de gratitude avec trois raisons de dire merci à celui ou celle qui partage sa vie. Les trois raisons essentielles. Et vous voyez, du coup, on change un peu son mode de communication. Les psys américains dont on s'inspire pour faire ça vous proposent de le mettre un peu en scène. Vous écrivez votre lettre de gratitude avec une belle plume, vous l'enroulez et vous l'offrez au dîner. Et tout d'un coup...
Il ne va pas comprendre votre mari, ce soir.
Je pense qu'il va halluciner.
Alors, ouais. Il va vous voir en rose, apportant une lettre de gratitude. Vous dites, c'est rien, on a invité un psychiatre à Europe 1. Donc, vous voyez, au fond... Tous ces petits changements ou de communication ou d'habitude ou de repas vont au fond
doper notre humeur quand même.
Doper notre humeur et ouvrir un peu des fenêtres dans un temps qui est plutôt gris. Donc la nouveauté qu'on n'a pas tellement dans le renouvellement de la nature, on va pouvoir l'avoir dans sa manière de penser ou de se comporter.
Alors dans votre livre, professeur, Les quatre temps de la Renaissance aux éditions J.C. Lattès, vous conseillez aussi pour lutter contre ce spleen hivernal, de rêver. La rêverie volontaire avec 10 minutes d'esprit vide par jour. Comment on s'y prend concrètement ? On ne fera pas ça tout de suite avec Julien, on fera après l'émission parce qu'on ne va pas partir pendant 10 minutes.
Vous voulez qu'on fasse 10 minutes de silence ? Là, ça va être bien
non,
pris. vous le faites souvent, ça, dans votre émission.
Oui, bien sûr, mais si on se tait trop, il y a un disque automatique qui part, donc on ne va pas se taire trop longtemps.
C'est parti d'une expérience très intéressante où on s'est aperçu que les rêveurs, ceux qui font ce qu'on appelle du mind wandering, du vagabondage de l'esprit, sont globalement plus résistants. Résistants à l'hiver, résistants à tout ce qui est imprévisible. Donc, soit vous êtes naturellement rêveuse ou rêveur, bah, de toute façon, vous allez les avoir, vos 10 minutes de décrochage. Mais vous avez vu que ce n'est pas du tout à la mode. Aujourd'hui, on veut, on met sous Ritaline tous ceux dont on pense qu'ils ont des troubles de l'attention. Donc, alors que moi, ce que je vous propose, c'est l'exercice inverse. Ce défaut qui est d'être un peu rêveur, d'être inattentif, on va le cultiver une fois par jour. On va se déconnecter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se servir éventuellement d'une musique bien planante, d'un texte. Hein. On peut se faire sa petite valise à déconnexion avec son texte qui nous fait rêver aussi. Et on sait que ces 10 minutes de mind wandering vont d'abord nous révéler nos vraies pensées. Parce que dès qu'on se déconnecte, ce qui apparaît, ce qui émerge, ce n'est pas des préoccupations matérielles, c'est les choses qui nous concernent vraiment. Et on va en sortir tout à fait régénéré. Donc vous voyez, plutôt que d'essayer de se contraindre tout le temps, vous parliez de développement personnel. Je suis personnellement assez contre le développement personnel au sens de « je vais contre ma nature, j'organise mon emploi du temps ». Moi, je propose plutôt des petites effractions de comportement et des petites défense de ce qui est considéré comme les défauts. Vous voyez, un peu d'impulsivité, un peu de rêverie. Ces moments-là sont au fond des moments qui nous font du bien.
On est d'accord que si on fait une petite dépression saisonnière, il n'y a pas besoin de médicaments. Vous parliez de Ritaline, tout ça, mais on ne prend pas de médoc.
Il n'y a rien entre la maladie et l'émotion. La maladie, ça se traite avec les médicaments. L'émotion, ça se respecte et ce n'est en aucun cas une maladie. Vous savez, c'est comme les antibiotiques. Hein. Mes copains infectiologues le disent.
C'est pas automatique.
Voilà, vous l'avez appris. Eh bien, il faudrait qu'on apprenne la même chose. Les antidépresseurs, c'est pas automatique.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Lejoyeux, d'avoir répondu à nos questions. Et pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage, pour encore plus de conseils hein, pour retrouver le moral, je rappelle votre livre « Les quatre temps de la Renaissance » publié chez J.C. Lattès. Merci encore.
Merci à vous.
Merci beaucoup, professeur. Maintenant, Julia, il est temps d'accueillir notre trio de chroniqueurs du jour pour la partie tendance de l'émission. Celui qui va ouvrir le bal, ce sera le chef Abdel Alaoui avec la chronique gastronomie. Il nous propose de revisiter la soupe. Ensuite, Soizic Belin, notre madame loisir à la mode ou insolite, nous rejoindra. Elle nous fera découvrir des cours de danse d'un genre bien particulier. Il n'est jamais trop tard pour apprendre cet art, vous l'entendrez. Et puis, on finira ce tour de table avec Cécile Coumeau, celle qui met en lumière chaque fois pour nous les tendances pour les plus de 50 ans. Ce midi, avec elle, place à la nouvelle marche nordique sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbes. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. La France va-t-elle devoir à nouveau serrer la vis alors que la cinquième vague de Covid est là? Pour freiner l'augmentation du nombre de cas, il va falloir se remobiliser sur les gestes barrières. Reportage dans Europe Midi dans un centre commercial pour voir si le laisser-aller de ces derniers mois recule ou pas. Et puis on sera avec un infectiologue, le docteur Pittet. Les informations exclusives Europe 1 sur la campagne d'Éric Zemmour. Louis Dragnel nous dira que tout est prêt pour le financement de cette campagne. Nos informations à suivre. Si vous vous mariez à Poissy, vous allez devoir verser 1000 euros de caution. Si ça se passe bien, la mairie vous les rendra. Mais si vous ou vos invités se comportent mal, la mairie gardera cette caution. La mairie qui a été obligée d'en arriver là à cause d'incivilité, voire de violence lors des mariages. On sera avec le maire de Poissy dans Europe Midi. Et puis, une vente historique chez Sotheby's à New York ces prochaines heures. La collection d'œuvres d'art d'un couple qui divorce et qui avait fait fortune dans l'immobilier. Cette collection va être vendue au menu Picasso, Giacometti ou encore Warhol, montant estimé entre 600 millions et 1 milliard de dollars, le détail de cette vente avec Marie Jiquel dans Europe Midi. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 1 milliard de dollars. Voilà le programme, à tout à l'heure, dans une demi-heure.
Europe 1, 11h, midi 30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne dans lequel on cherche tous les jours à mieux consommer. Notamment, on vous parle de ces bons plans ou même de ces aliments qui nous font du bien. Alors justement, on va lancer à présent la séquence tendance de l'émission et ça démarre toujours par de la gastronomie. C'est Abdel Alaoui qui l'incarne aujourd'hui, cette chronique. Bonjour Abdel.
Bonjour tout le monde.
On va cuisiner du réconfortant avec vous, ouais. Un plat très adapté à la saison.
Une bonne soupe de grand-mère.
Ah ça oui, vous va génial.
Bah moi j'adore.
On va la rebrancher cette soupe, évidemment.
Ah, j'espère. Hein, ouais. Évidemment, on va la revisiter. Oui. Ensuite, ce sera à vous de monter sur scène. Soizic Bolin, vous allez nous faire découvrir un cours d'un nouveau genre. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Alors, vous prenez une chaise et puis vous faites un petit peu de sport, de la danse. C'est très sexy, c'est sensuel. Enfin, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques minutes.
Ça réchauffe ça aussi.
On va danser avec une chaise. Allez, enfin, on terminera ce tour de table ce midi avec vous, Cécile Coumeau. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
On va parler marche nordique, mais surtout nouvelle marche nordique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là en quelques mots ?
Il y a un petit élastique dans les bâtons. C'est ça qui fait toute la différence. Et ceux qui croient que c'est une marche pépère, vous allez voir.
Ok, on va s'échauffer pour le moment. Ce sera à vous dans quelques minutes. Et pour se réchauffer, surtout tout de suite, on passe à la chronique gastronomie de Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Il est donc l'heure de passer à table avec vous aujourd'hui, Abdel Alaoui. Bon, moi, la soupe, hein, je vous l'avais compris, c'est pas mon plat préféré.
Ah, moi, j'adore.
Mais non, mais le problème que j'ai avec la soupe, c'est que j'ai toujours ce souvenir de ma mère qui m'a forcé tous les soirs, pendant tous les hivers de mon enfance, à avaler un bol de soupe tous les soirs. C'était obligatoire. Donc, du coup, je fais ma rebelle et j'en mange plus.
Elle
la
vous
soupe.
A braqué, quoi.
Mais peut-être que je vais changer avec vous.
Non,
alors,
mais vous allez
voir,
moi, je vais la rendre plus accessible.
Ah, c'est gaufret.
Oui, encore un grand tube du gaufret qui nous a échappé.
Complètement.
Ouais, échappé. Mange ta soupe pour grandir, me disait ma mère.
Ah bah oui,
ah bah, ouais, la
ça faisait longtemps.
Ouais.
Alors, qui n'a jamais entendu, réentendu, voire même utilisé cette phrase mythique et intemporelle, véritable injonction parentale, souvent accompagnée de la menace suprême d'être privé de dessert. Ces quelques mots entraînent généralement une soupe à la grimace. Ils peuvent même braquer le goût des enfants, Mélanie.
J'en suis témoin, hein, c'est pour ça que j'en mange plus.
Alors, on est d'accord, hein, c'est de la mytho, mange ta soupe pour grandir.
Bah oui,
de toute façon, j'ai pas
Mélanie,
grandi, moi. Et j'en ai bouffé pourtant.
Alors, moi, j'ai des potes de petite taille, ils ont mangé de la soupe toute leur vie, ils sont encore petits. Hein.
Genre, Cécile, vous en avez mangé un peu aussi.
Oui, j'en ai mangé,
beaucoup.
Ça n'a pas marché non plus. Non. Et je continue à manger. Hein.
C'est vraiment de la mytho. Moi, j'ai mangé des kebabs, des frites, des trucs bien gras qui m'ont fait grandir. Et c'est que du business, ça, c'est pour vendre le max de chou-fleur et de poireaux qui sont en stock. Alors, seulement depuis quelques années, les enfants se sont réconciliés avec la soupe généreuse et ludique. Elle les effraie plus. Et certains ont même leur recette de soupe préférée. Alors la soupe d'épinards avec des carrés de fromage.
Ça c'est bon,
c'est bon, ça marche. Hein. Ouais, c'est justement bon. Pour faire passer la soupe plus facilement, vous jetez un petit carré de fromage dedans, vous mixez tout ça et ça la rend plus accessible, plus facile et plus ludique. Alors il y a la soupe de carottes au miel, juste des petites carottes comme ça revenues.
C'est bien sucré ça.
Avec du miel, ouais, des oignons, de l'ail, on met un peu d'eau, on mixe tout ça et on fait goûter ça aux enfants. Les enfants adorent la carotte. Et il y a la soupe de pâtes. Alphabétique.
Ah, ça, c'est la préférée de ma fille.
C'est vrai.
Ah, elle cherche toutes les lettres, par contre, ça prend des heures parce qu'elle veut écrire son prénom avec les vermicelles. C'est bon, mais c'est long.
Et ça, c'est un petit conseil, c'est une petite astuce. Vous récupérez le bouillon de potage de la veille hein, et vous y rajoutez, pareil, des petites carottes comme ça en brunoise. Les brunoises, c'est des petits dés. Vous mettez vos pâtes alphabétiques au dernier moment dedans. Pas besoin de les cuire et vraiment, avec la chaleur, ils vont gonfler. Et ça plaît aux enfants.
Ça, c'est sûr. Mais en fait, il y a plein de soupes différentes, Abdel.
Alors, chaque pays a sa soupe. Évidemment. Alors en France, on connaît évidemment la soupe à l'oignon, la soupe de poisson
bon
avec une bonne rouille, du petit pain comme ça, un peu rassis, petite rouille dessus, trempée dans la soupe de poisson et c'est tellement bon, ça réchauffe. Alors après, il y a le minestrone italien, vous connaissez ?
Très bon.
Avec de la pâte, avec de la tomate, des pâtes et des petits dés de légumes de saison. Il y a le borsch, soupe russe à base de betterave.
Ça, je connais pas.
Ça me donne pas trop envie, celle-là.
Des gros morceaux de viande, ouais, c'est dégueu, ça c'est vraiment pas bon. Ouais, n'y allez pas, c'est trash.
Tu as dit qu'elle aime bien le borsch.
C'est bon le borsch, ouais.
C'est très bon.
Ah oui. En fait, nous goûter la prochaine fois du borsch.
Il y a les soupes japonaises
alors,
aussi.
Ouais, il y a la soupe miso avec du wakame.
Ah, celle-là, je l'aime bien.
Elle est bonne, celle-là. Ouais, elle est légère. En général, c'est le menu K12 quand vous
commandez. Exactement.
Vous commandez vos sushis avec du kombu, ces petites algues séchées, du poisson séché aussi.
Chez vous, il y a
quoi ? Très bonne, elle est très légère. Moi, j'aime bien la soupe miso. Après, il y a la shorba. Chez moi, évidemment, il y a la shorba. Alors ça, c'est la soupe de l'Afrique du Nord avec des tomates, des pois chiches, de l'agneau comme ça coupé finement, du cumin, du rasélanout.
Aussi, ma mère m'avait fait la shorba. Peut-être, j'aurais mangé de la soupe.
Ah ouais,
ouais. Peut-être.
C'est pas la même. C'est pas les mêmes calories. Hein. On passe à 1500 calories par
mois. Moi, j'avais la soupe de légumes avec plein de poireaux, beaucoup d'eau et des légumes en morceaux.
Non, la shorba, c'est tellement bon. Au Maroc, il y a aussi la rira, qui est une autre soupe.
Plus relevée, non ?
Plus relevée. Et il y a pas ce qu'on appelle les langues d'oiseaux, ces petites vermicelles. Donc c'est vraiment pois chiches, lentilles, tomates. Elle est très bonne. Elle est un peu plus liquide que la shorba. Après, il y a la soupe vietnamienne à base de nouilles et de pousses de soja qu'on appelle le feu.
Ah oui, c'est bon ça. Ça s'écrit P-H-O. P-H-O,
exactement. On disait faux, on dit feu, en fait.
Moi, je dis feu, mais ça se dit aussi faux. Voilà. Et concert d'ailleurs au petit-déj au Vietnam.
Ouais. D'accord.
Alors, il y a le gazpacho, tout le monde connaît, soupe espagnole, Mélanie, évidemment, avec qu'on vous sert froide.
Qu'est-ce que c'est bon. Le froid, ça passe, moi, il n'y a pas de problème. Le gazpacho, c'est toujours passé.
C'est bon. Vous avez une recette de gazpacho, d'ailleurs?
Non, je ne sais pas très bien, c'est ma mère qui le fait. Mais nous, on laisse des morceaux quand même un peu en légumes, avec des concombres un peu en morceaux, on met des pignons dessus.
On met des grillés. C'est une bonne recette. Du pain, voilà, du pain qu'on laisse rassir, évidemment. On va le rôtir un peu au four avec de l'huile d'olive. Et on va le mixer pour lui donner un peu de texture, des concombres et des poivrons. Bref, il y a tellement de soupes dans le monde.
On a fait le tour du monde avec vous, Abdel, mais est-ce que vous avez une petite recette maison à nous donner pour me réconcilier avec la soupe, peut-être?
Là, je vais vous donner envie de refaire de la soupe à la maison et de la faire à vos enfants. Alors, une soupe de potiron, c'est la saison. Alors, c'est trop facile de mettre que des potirons et de l'eau et de mixer. Alors non, moi, je vais faire quelque chose d'autre. Évidemment, une recette un peu plus facile et plus simple. C'est la saison des potirons ce week-end.
J'en aurais assez avec celui-là. Je mettrai la photo. C'est celui le dernier de mon jardin.
On dirait un melon.
Il est énorme, un potiron. Je vous mettrai sur les réseaux sociaux.
C'est bon, alors on enlève évidemment les graines au milieu. Alors il y a ceux qui laissent la peau, d'autres qui l'enlèvent. La peau, ça rajoute un petit goût d'amertume. Ça va rajouter aussi un peu de texture. Ça évite de mettre des pommes de terre. Alors moi, j'en ai fait d'ailleurs à ma famille ce week-end. Alors il vous faut des potirons, donc à peu près 1 kilo, 1 oignon, 3 carottes pour apporter un petit goût sucré, 2 gousses d'ail, une pomme de terre pour la consistance, un peu de crème, ça c'est mon côté normand, un peu de beurre salé, ça c'est mon côté breton, et un peu d'huile d'olive, ça c'est mon côté roveux. Du sel, du poivre, on coupe tout ça, on fait suer, on mouille avec un peu d'eau. Une fois cuit, on rajoute la crème et le beurre et on mixe et on rajoute quelques petites brisures de châtaigne un peu sucrées.
Ça, c'est bon. C'est pas mal, ça. On peut les acheter en bocaux, hein, c'est ça.
On peut les acheter en bocaux, en sous vide, ça se vend aussi en post sous vide. Et ne mettez surtout pas la crème de châtaigne, la contartine.
C'est vraiment des brisures. La crème de marron, vous voulez dire? Non, ça, c'est pas une bonne idée.
Et là, on jette ça par-dessus et c'est pas mal, franchement.
Moi, j'ai un peu de muscade aussi dans cette soupe-là. C'est pas mal.
On peut mettre ce qu'on veut finalement, des petites graines de fenouil pour apporter un peu de
goût anisé.
Et des croûtons.
Moi, j'adore les croûtons. Pourquoi on n'a pas parlé croûtons?
C'est vraiment chacun sa soupe, quoi. Tu vois,
moi, je suis team crouton. Et croûtons. Vous, Soizic?
Oui, moi aussi.
Du fromage aussi, du fromage râpé. On peut mettre du fromage râpé dessus, du parmesan, de la. Voilà, plein de fromages différents. On peut citer quelques citations, non? Alors, arriver comme un cheveu sur la soupe, vous savez ce que ça veut dire?
Non. Oui, c'est arriver comme ça au débeauté.
Voilà, tout ça, comme ça, comme si de rien n'était. Soupe à la grimace, c'est faire la tête. Soupe au lait, un peu débordé et nonchalant. Voilà.
Bon, merci pour ce tour du monde de la soupe. Merci Abdel pour ce bel hommage avec vos conseils. On a l'impression qu'il a pris un bon coup de jeune, le potage de mémé. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, on ira encore à la recherche d'autres tendances et notamment des cours de danse sensuelle seront à l'honneur avec Soizic Belin. Et puis, on va bouger aussi avec Cécile Coumeau qui va nous faire découvrir ou plutôt redécouvrir un sport qui se modernise, la marche nordique comme vous ne l'avez jamais testé. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit toujours dans la convivialité, la bonne humeur et des odeurs de soupe. Comme tous les jours. Alors on s'est bien réchauffé, on a la peau du ventre bien tendue grâce à vous Abdel, merci. On va basculer vers un sujet un peu plus sexy à présent avec vous, Soizic Belin. Avec des cours d'un nouveau genre, de quoi vous nous parlez aujourd'hui exactement?
Alors imaginez un mixte entre ça, Liza Minnelli, élégante avec son chapeau de forme et sa voix reconnaissable entre mille, et ça. La chorégraphie de danse contemporaine, certainement la plus connue au monde, signée Anne-Thérèse de Kersmaker. Alors figurez-vous que hier, j'ai suivi un cours de danse de chaise.
Ça ne m'étonne pas de vous, toujours des trucs originaux. Où êtes-vous allé dénicher ça?
Eh bien, j'ai voulu reprendre une activité sportive, de la danse, mais pas n'importe laquelle. On m'a parlé du studio Françoise, qui se présente comme un studio pour athlètes et danseurs atypiques. Alors, vous connaissez mon insatiable curiosité. J'y suis allée et j'ai pu échanger avec Claire, qui s'appelle Gorgone la Prince sur Instagram. Après une formation académique plutôt classique, cette jeune femme a eu besoin d'arrondir, entendez par là de casser le côté rigide et strict du classique pour insuffler à son corps des mouvements plus souples, plus ronds, plus expressifs.
D'où vient le chair dance et qu'est-ce que ça apporte au corps de la femme, mais pas que de la femme, parce qu'il y a des hommes aussi dans ton cours?
Alors au niveau du chair, il faudrait demander aux chercheurs d'où viennent les origines du chair dance. Moi, je sais que j'ai découvert quand j'étais petite, en fait, avec le film Flashdance. Ça a été un peu un moment fondateur pour moi, visuel, corporel, d'empowerment aussi, au niveau de la femme. Et puis c'est quelque chose que j'ai découvert aussi au studio Françoise, en tant que discipline. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est un accessoire de danse qui, comme il est présent, nous permet de savoir où positionner nos mains, comment nous asseoir. C'est une aide, je trouve, pour pouvoir exprimer un personnage, vivre une choré. Puisqu'on a cette assise, tout le monde connaît la chaise, on est assis soit au bureau dessus, soit à la maison pour manger. Du coup, il y a une proximité avec cet objet qui, je trouve, nous permet plus facilement d'incarner un personnage.
Oui, plus que le pole dance ?
Pour moi, la pole, c'est un peu la même chose, puisque ça reste un accessoire et dans lequel on sait comment s'y tenir, comment tourner autour, et je trouve que ça facilite la rentrée en danse.
Alors,
on rit parce que j'étais un peu.
Julia était debout en train de danser avec
sa
chaise.
Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, quand j'étais jeune, on écoutait Like a Virgin, on regardait les cassettes à l'époque, c'était des VHS. Et Madonna, déjà, faisait ça dans ses chorés.
Ça vient de la comédie musicale, en fait, du cabaret au départ. Si pour Claire, c'est Flashdance, la référence. Hein. La danse de chaise, on emploiera plus facilement le terme anglais, hein, chair dance, que danse de chaise. D'ailleurs, c'est un peu plus joli quand même. On la retrouve dans de nombreuses comédies musicales. C'est un objet du quotidien qui est détourné, mais c'est aussi un objet qui maintient et porte le corps, l'utiliser à des fins artistiques et sensuelles. Alors pourquoi pas finalement ?
Mais alors comment ça s'est passé ?
Parce que je crois que vous êtes allé avec Abdel en plus. Non, je plaisante. Entre deux soupes.
Ça invite à s'asseoir cette histoire.
Mais ça s'est très très bien passé.
Bah ouais.
Nous étions une petite dizaine, hein, des plus jeunes et des plus âgés. Oui, le corps est sacré, il est mis en avant dans ce type de danse. Dans ce cours, j'ai ressenti comme une véritable liberté, hein, comme un îlot de bien-être avant tout. Le regard qui importait était celui que nous posions sur notre corps et pas celui des autres. Les femmes et l'homme, puisqu'il y avait un homme dans ce cours. Étions...
Oui, Abdel, on va dire.
Alors attendez, parce qu'étions tous chaussés de talons. Plus ou moins extravagant.
Alors,
vous aviez mis des talons ?
Moi, je l'ai pieds nus.
Les tenues étaient tantôt sexy, tantôt plus sportives. Et la chaise, donc l'objet du délit, était évidemment au centre de la chorégraphie. Alors la musique, c'était du R&B qui scandait les mouvements, les répétitions s'enchaînaient, ondulations, body shake, vous savez, c'est quand vous faites remuer vos fesses, intention du regard, mouvement de la main, position du menton, tout a son importance dans cette discipline qui mêle danse et comédie. Et puis finalement, il faut s'approprier la chorégraphie pour se sentir à l'aise et pour aller au-delà de l'effort physique, comme tout cours de danse. Ici, on travaille le rapport au corps, la posture, la féminité, pas en imposant une quelconque position qu'il serait bon de mimer, mais en indiquant les différentes positions possibles. Mm-hmm. L'important, c'est évidemment de ne pas se prendre au sérieux, c'est de se laisser aller. Donc, si vous hésitez entre un cours de théâtre et un cours de danse, peut-être que la danse de chaise est faite pour vous. C'est votre personnage qui pourra librement s'exprimer à chaque pas. Alors moi, je suis allée au cours... de cours Françoise, pardon, à Sèvres, mais vous en avez de plus
en plus. C'est à côté de chez moi,
il
faut qu'on aille tester ça.
Vous y allez. Cécile, vous êtes de Sèvres.
Mais moi aussi, on va y aller, Mélanie. Hein.
C'est tous les dimanches. Sinon, vous avez pas mal de studios de danse qui proposent cette discipline. À Lyon, il y a le studio Chair Folie. Et sinon, il y a de nombreux tutos également en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer.
Bien sûr, et on a tous une chaise à proximité. Là.
c'est ça qui est bien. Entraînez-vous au bureau.
Une chaise à roulettes, ça marche ou pas ?
Une chaise à roulettes, c'est plus difficile, je pense.
Pourquoi pas ? Non, allez-y.
Merci beaucoup Swazik, je suis certaine que ce genre de cours peut trouver pas mal d'adeptes, franchement je sais pas. Pour vous Julia, moi je sors d'une hernie discale donc je vais passer
mon tour,
mais je suis sûre que ça peut intéresser pas mal de gens. Alors Cécile Coumeau, vous n'êtes pas notre coach sportif, mais pour Europe 1 vous êtes initiée au planté de bâton. Alors pas celui de la traditionnelle marche nordique, non, la nouvelle tendance qui fait de plus en plus d'adeptes chez les quinca et plus, ce sont des bâtons de marche que l'on appelle bungee pump, je l'ai bien dit ?
Bungee
pump.
Allez. Alors je vous explique, les bâtons de marche nordique, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais. Hein, voilà, bon. Alors les bungee pump, je vous les montre, c'est ça, j'en ai un là.
Donc sur europe1.fr, vous pouvez les voir évidemment. Hein.
Ils ont un petit truc en plus, un élastique en fait. Ils intègrent un système de pompe de 20 cm à peu près qui donne une impression de ressort, vous voyez. Alors je vous dis tout de suite, on ne se transforme pas en kangourou pour autant. Avec les bungee pump, on ne saute pas, on marche quand même.
Mais alors c'est quoi l'intérêt alors ? Parce que avec les bâtons de marche nordique traditionnels, quelle est la différence ?
Alors, il y en a plusieurs. Premièrement, quand vous appuyez, je vous l'ai montré, il y a une forme de résistance et donc c'est plus physique en fait. Si on compare la dépense énergétique engendrée par une marche d'une demi-heure à peu près, à 6,5 km, donc c'est déjà pas mal quand même.
Marche nordique.
Voilà. Avec... Si on compare sans bâton, avec des bâtons traditionnels et avec les bungee pump, eh bien il n'y a pas photo en fait. Les bâtons en ressort vous font brûler 77% de calories en plus que si vous n'aviez pas de bâton du tout. Et 32% en plus par rapport au bâton traditionnel.
Ça veut dire que c'est efficace pour ceux qui veulent perdre du poids, en tout cas.
Exactement. Alors, évidemment, à condition d'avoir un régime alimentaire adapté, comme toujours.
Avec la soupe au potiron d'Adèle, c'est nickel.
Exactement. Mais en plus, vous pouvez régler la résistance en fait, des bâtons de bungee pump. Ça va de 4 kg à 10 kg, 4, 6, 8, 10 kg. Ouais. Et donc, vous dosez votre effort, en fait.
Moi, je vous mettrai au minimum. Hein,
voilà,
je crois.
Au début, il vaut mieux commencer par 4 kg. Deuxième atout de ces bâtons, vous redressez en fait votre buste quand vous marchez et vous ouvrez grand la cage thoracique. Résultat, votre VO2 max, vous savez, c'est la quantité maximale d'oxygène que votre corps va consommer lors d'un effort, eh bien, elle augmente d'environ 20%.
Pas mal, hein?
Troisièmement, avec ces bâtons, vous allez travailler la proprioception. Alors c'est le.
Oula, c'est quoi ça?
Bah oui, si on sait ce que c'est. On nous a déjà expliqué ici.
Mais ah bah voilà, mais Daniel n'a pas bien écouté. Non. C'est la perception de la position des différentes parties
du
corps.
Mais moi, dès que ça parle de sport, autant la soupe j'intègre, autant le sport, ça rentre et ça sort.
Et c'est quand même très utile parce qu'avec l'âge, si on a des problèmes d'équilibre, eh bien travailler la proprioception, c'est utile.
Bon, alors sur le papier, ça a l'air formidable. J'imagine, Cécile, que vous avez testé les bungee pumps.
Évidemment, j'ai pas résisté. Et comme c'est quand même un petit peu technique, je me suis adressée à Arja Jalkanen-Meyer, c'est une Finlandaise qui est surnommée la papesse de la marche nordique. Alors, elle a créé l'école de marche nordique de Paris et elle donne des cours dans le bois de Vincennes. Alors, pour Arja, marcher avec des bâtons, c'est naturel, hein, parce qu'elle est globalement, elle est née avec des skis de fond au pied, donc c'est simple pour elle. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas de tout le monde.
Bras, jambes opposées, bras, jambes opposées. 1, 2, 1, 2. Quand on pose pied gauche, on pose main droite. Cherchez le rythme pour que bras et jambes aient le même rythme. Le même rythme. Mode. Hop, hop. Quand tu poses le pied, tu poses l'autre bâton en même temps. Alors, Maud, arrête de réfléchir et avance, ça va venir.
Voilà, bon, une fois que vous avez chopé le truc, ça va plus ou moins vite selon les gens, il faut allonger le pas, donner en fait de l'amplitude à votre marche pour que ce soit plus physique toujours. Et pour ceux qui pratiquent déjà la marche nordique, je suis sûre qu'il y en a parmi nos auditeurs.
Non, ah, pas nous en tout cas. Moi je réponds non, tout de suite.
Il va falloir oublier certains réflexes avec les bungee pumps, comme nous l'explique Arja.
Pour ne pas taper le bâton au sol, tu vois, tu avances. Tu poses tranquillement et tu appuies après. Ce qui fait un petit retard, un petit décalage. Et c'est ce décalage qui fait que c'est très rond comme mouvement.
Et sinon, Cécile, je crois qu'on peut courir aussi avec ces bâtons de compète.
Oui, vous pouvez essayer, tout à fait, c'est possible.
Oui, mais
Y en a qui le font, vous allez essayer. Mais surtout, l'intérêt de ce système de ressort, c'est que ces bâtons se transforment en fait en outil de fitness, de renforcement musculaire. Écoutez.
Là, on appuie en même temps sur les deux bâtons pendant qu'on marche. C'est pour gainer, c'est pour qu'il y a vraiment une contraction statique de l'abdomen tout entier pendant un bon moment. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que le gainage est parfait, même si on n'a pas vraiment compris comment ça marche physiquement. On gagne tout seul et c'est excellent.
Voilà, excellent.
Donc, voilà. C'est ça. Bon, moi, j'ai été conquise. Hein.
Mais vous êtes une super sportive, alors ça ne m'étonne pas.
Non, pas super sportive, j'aime bien le sport, mais voilà. Et dans le bois de Vincennes, j'ai fait ça quand même un samedi à 9h du matin, il faisait 5 degrés. Hein. Eh bien, les accros, il y avait une dizaine d'élèves, les accros au bâton traditionnel, eh bien, ils se sont laissés séduire.
Le fait qu'on appuie à chaque fois et que ça, qu'il y a un ressort dans le bâton, c'est beaucoup plus tonique et beaucoup plus. Il y a plus d'exercice en fait, c'est pas du tout pareil.
Après une séance, je suis comme lavée. Moi qui n'aime pas courir, j'ai horreur de ça. J'éprouve beaucoup de plaisir à faire un effort. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on ne se mesure qu'à soi-même.
Mais franchement, vous croyez que des sportifs avertis vont se laisser convaincre ?
Ah bah, je me doutais un petit peu de la question. Alors, premier élément de réponse, Arja, elle peut faire du 8 km/h, donc essayez de la suivre. Hein.
Ouais.
Et après, c'est quand même un sport d'endurance. Donc, si vous voulez vous dépasser, bah, il existe des trails assez longs, des 100 km/h, par exemple. 100 km, pas 100 km/h.
Non, 100 km, c'est pas magique.
Mais 100 km, allez-y quand même. Voilà.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal pour se challenger. Merci beaucoup, Cécile, pour ce focus sur ce sport qui a l'air très chouette, hein, qu'on ait plus de 50 ans ou pas d'ailleurs. Moi, je me lancerai bien de ces jours avec vous, Mélanie, quand vous aurez plus votre hernie.
Ça peut prendre du temps, réparer l'hernie d'Israël.
Merci à tous les trois. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve évidemment demain à 11h. Mélanie, demain, quel sera le programme?
Alors demain, dans Bien fait pour vous, on se posera la question suivante. C'est quoi un bon patron, stratège, organisé, bon communicant? On verra ensemble quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir pour être un bon manager. D'ailleurs, c'est qui la chef entre nous, Julia?
Oh, on est à égalité, ouais, Mélanie. Allez, ça nous va comme ça. Bon, d'ici demain, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.